Vous écoutez RTL.
Et tout de suite sur RTL, on se demande s'il faut vraiment, vraiment avoir peur des prédateurs. Bonjour Marc Giraud.
Bonjour à tous.
Comment vous n'êtes pas un prédateur, vous ?
Oh non.
Non, ça c'est sûr.
Je suis un observateur.
C'est vraiment une bonne personne, Marc Giraud. On est très heureux de vous retrouver.
Et moi donc.
Dans la curiosité, vous êtes naturaliste, faut-il le rappeler, habitué de l'émission et de RTL, puisqu'on vous retrouve. Tous les mercredis avec Stéphane Bern.
Tous les mercredis.
Ah ben voilà, c'est du bonheur. On va commencer par ce qui fait l'actualité, Marc. Les ours, selon la Confédération paysanne, 232 attaques ont eu lieu cette année en Ariège. Et selon le syndicat, c'est un record. Faut-il avoir peur des ours dans les Pyrénées ?
Oh, vous allez imaginer ma réponse. C'est non, évidemment. Ouais. Les ours. Alors, je ne vais pas dire que les ours sont des petits nounours gentils qu'il faut faire n'importe quoi avec. Hein. Ce sont quand même des grosses bêtes qui peuvent dépasser 200 kilos, qui ont des griffes, des dents. Faut faire attention, mais vraiment, il faut aussi raison garder.
Mais vous dites ça parce que vous aimez les animaux et que vous les protégez, mais si on se trouve face à un ours et qu'on est attaqué ?
Eh bien, ça arrive en Amérique tous les jours, donc dans les cas les plus, je dirais, graves, avec des grizzlies, des femelles qui sont suitées, c'est-à-dire qu'on leur petit, là, elles peuvent être un petit peu agressives et les gens ont des bombes avec du poivre, si jamais il y avait un souci, mais vraiment, il n'y a pas de souci. En France, il n'y en a aucun. Les seuls soucis qu'il y a eu, en fait, c'était avec des chasseurs qui n'avaient pas respecté les consignes et qui avaient des chiens. Donc, ils se sont affolés, ils ont tiré. Et la rencontre, si elle est dangereuse, c'est pour l'ours, c'est pas pour l'humain.
Bon, on va continuer de parler des ours et puis aussi des autres prédateurs. Mais c'est vrai que les ours, ils sont au cœur de l'actualité. C'était l'un des cailloux dans les chaussures de Nicolas Hulot quand il était encore au ministère de l'écologie. Faut-il introduire deux nouvelles femelles dans les Pyrénées ? Vous allez nous donner votre point de vue dans un instant, Marc Giraud. À tout de suite.
14h-15h,
un grand prédateur camouflé et rusé,
Thomas Hugues,
dont la beauté n'a d'égal que ses prouesses meurtrières. Une créature des profondeurs qui domine les vagues.
Sidonie Bonnec,
elle est faite pour tuer.
La curiosité est un vilain défaut. Sur RTL.
Donc, si j'ai bien compris la mise en onde, je suis le grand prédateur et vous êtes la créature aquatique.
Non, c'est l'inverse.
Ah, c'est peut-être l'inverse. Bon, en tout cas, il y a des requins, il y a des ours, il y a des serpents, ces prédateurs qui nous font peur. Bah, je sais pas, depuis la nuit des temps, est-ce que c'est justifié ? On est avec Marc Giraud, notre naturaliste préféré, pour répondre à cette question. C'est une question sensible, c'est une question polémique. On l'a vu avec l'ours et on va continuer d'en parler. 21 août dernier, on est dans les Pyrénées espagnoles. Il y a un Nantais de 22 ans, il s'appelle Lucas Merlet, qui se retrouve nez à nez avec une ours et ses petits.
Le vénard.
La maman, ça c'est le naturaliste qui parle, la maman ours n'a pas apprécié, elle le poursuit.
Ah non.
Et le
non,
randonneur, je termine l'histoire, oui. Le randonneur a fini par lui faire face en poussant de grands cris et la femelle ours repart.
Version du naturalisme maintenant, Marc Giraud.
Ça c'était la version des journaux à sensations locaux,
ouais.
Qui ont dit des choses, c'était n'importe quoi.
D'accord.
La femelle n'avait aucune raison de poursuivre un randonneur, elle n'allait pas lui chipper son sac à dos ou ses baskets.
Même pour éventuellement protéger ses petits, elle pouvait avoir le sentiment de se sentir, je sais pas, agressée ou menacée.
Oui, alors qu'elle se soit sentie inquiète par le randonneur, oui, mais elle ne l'a absolument pas poursuivi.
Ouais.
Et lui, il a eu le bon réflexe, c'est-à-dire qu'il est resté relativement calme, qui s'est fait connaître. C'est ça qu'il faut faire quand on voit un ours.
C'est-à-dire, on se présente, bonjour, je m'appelle...
Non, il faut dire, je suis là, éventuellement faire un peu de bruit pour montrer qu'on a une certaine force, et c'est tout. Si on a un chien, surtout, il faut le garder.
C'est-à-dire, il faut le garder, il ne faut pas lui demander d'aboyer contre l'ours.
Ah oui, voilà, parce qu'il ne faut pas l'agresser, l'ours, c'est tout. Lui, il est chez lui. Une femelle qui a ses petits, ça défend ses petits très courageusement contre des loups, contre n'importe quoi, donc contre des humains, ça c'est normal. Mais si on ne l'embête pas, il n'y a aucune raison qu'elle vous embête. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On a fait un foin pas possible simplement parce que quelqu'un a rencontré une ours. Vous parlez d'une histoire, franchement.
Ouais. C'est spectaculaire.
L'ours, oui, c'est très beau, mais tout le monde rêve de... Moi et mes copains naturalistes, on court pendant... On crapahute pendant des kilomètres et des kilomètres pour les rencontrer. Les ours, on les voit pas, c'est rare.
Combien d'humains, Marc Giraud, sont tués par an par un ours ?
Bah zéro.
En France, zéro.
Non. Alors, il faudrait peut-être faire des archives, aller voir dans le Moyen-Âge, parce qu'avant, il y avait énormément de bergers, énormément d'ours, parce que ça allait ensemble. Hein. Et peut-être qu'il y a eu des rencontres qui étaient justement avec des gens qui ne connaissaient pas les animaux. Les problèmes, c'est avec les gens qui ne connaissent pas les animaux. Par exemple, quand un ours se dresse devant vous, c'est pas du tout pour vous agresser, c'est parce qu'ils sont très myopes. Mais ils ont besoin de sentir les choses, de vous voir. Donc s'ils se dressent, c'est juste...
Ah, pour nous sentir avec l'ennemi.
Voilà, c'est pour dire mais qui y a là, et c'est tout. Et s'il voit que c'est vous, il a pas peur. On a peur de l'inconnu, mais s'il voit que c'est un humain, bon, il a pas... il va pas agresser un humain et il va pas non plus fuir comme ça.
Si on devait faire un classement de la dangerosité des ours, même si vous nous dites que il cherche pas à nous agresser,
mais on c'est l'a c'est bien pas des compris. Blagues, ce que je dis,
non, non, mais bien sûr, voilà, on boit vos paroles, hein, vous savez, Marc. Mais est-ce que l'ours brun qu'on a nous en France et en Europe, il est plus ou moins dangereux que, je sais pas, le grizzly, vous l'avez évoqué aux États-Unis, ou l'ours polaire?
Alors. Aux États-Unis, il y a des milliers d'ours. Hein. Il y a des ours bruns, c'est les mêmes que les nôtres, c'est les grizzlies, mais ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus gros. Il y a des ours noirs. Dans le nord, il y a des ours blancs. Eux qui n'ont pas l'habitude de l'humain, qui sont peut-être les plus dangereux. On se balade en général avec un fusil là-bas, mais même s'il y a rarement des problèmes, on se balade avec un fusil. En gros, il y a quelquefois des morts, il y en a à peu près tous les ans, aux États-Unis, et c'est toujours des gens qui n'ont pas respecté les consignes, et là-bas, on s'affole pas, on dit, bah, c'est un crétin, il a voulu prendre une photo d'une ours, il s'est mis entre elle et ses petits, c'était pas très raisonnable, il a eu ce qu'il méritait, en gros,
et on n'en fait
pas de problème. C'est un risque comme les autres, il faut aussi relativiser, comme je vous dis toujours, par rapport aux accidents de voiture, c'est quand même des milliers de morts tous les ans en France, l'ours, c'est zéro, donc... raison gardée.
Marc Giraud, l'un des dossiers qui attend le prochain ministre de l'écologie, c'est l'introduction de deux ours femelles dans les Pyrénées. Oui. Est-ce que c'est vraiment important et pourquoi?
D'abord, c'est dans une région où il n'y a plus que deux mâles. Donc pour la reproduction, c'est quand même mieux.
D'accord.
Donc il y en a un d'ailleurs à force de... Parce que les femelles bougent peu.
Ah, vous n'avez pas fini cette phrase, à force de...
À force d'attendre,
ah oui.
Il y en a un qui s'est lassé, vous avez raison.
Non, ça m'intéresse vraiment.
Je vais plus vite comme
moi-même. Il est parti chercher ailleurs.
Vous avez raison, reprenez-moi.
À force de...
Donc à force d'attendre, il y en a un qui a été un peu voir ailleurs, parce que les mâles sont un peu plus voyageurs que les femelles. Mais dans cette zone... où il n'y a pas de problème non plus. C'est Canelito, c'est le fils de Canel, la dernière femelle française de souche pyrénéenne, qui a été tuée par un chasseur d'ailleurs. Et son père, Néré, donc entre eux, ça ne va pas être possible pour la reproduction. Donc il faut des femelles, et j'espère. C'est un des rares succès de Nicolas Hulot, un des rares. Et en ce moment, localement, les éleveurs font une pression du diable, font des manifs avec des tripes ensanglantées de brebis et des machins, mais nous bourre le mou avec ça.
Oui, mais alors là, je vais mettre à la place, je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent, d'éleveurs ou de bergers de l'Ariège qui ont vu leur brebis attaquées par des ours. C'est normal. D'abord, est-ce qu'ils sont indemnisés? Est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour eux?
Parce que je voudrais pas paraître un donneur de leçons, je suis pas berger moi-même. Hein. Ouais. C'est pas un métier toujours facile, mais ça s'est fait depuis des millénaires, notamment dans les Pyrénées, quand il y avait plein d'ours, il y avait plein de bergers et il y avait plein de patous, les chiens de protection. Quand il y a un ours qui vient, les patous protègent le troupeau. Ça, c'est le truc de base. Et il y a une bergère, par exemple, Élise Thébault, qui est dans l'Ariège. Là, justement, on a tué Canel avec ses brebis. Elle dit, mais l'ours, c'est mon métier. Si l'ours disparaît, moi, mon métier disparaît aussi. Donc, elle est d'accord pour la cohabitation. Et il y a plein de bergers dont on n'entend pas beaucoup parler dans les médias qui sont pour la cohabitation. Parce que la vie sauvage, on ne va pas tout stériliser parce qu'il y a quelques problèmes.
Bon, l'ours, OK, on vient d'en parler. On va évoquer les serpents maintenant. Ah. Pardon à ceux qui sont... qui ont la phobie des serpents.
J'en connais.
Comment c'est quoi le mot?
Herpétophobe, c'est la peur la plus répandue du monde.
C'est ce que je cherchais comme mot. Herpétophobe. Restez avec nous, même si on va parler du serpent. À tout de suite sur RTL.
Si Denis Bonnec,
des merveilles redoutables,
Thomas Hugues,
dont la survie sur des millions d'années a donné naissance à des bizarreries dangereuses et mortelles.
RTL.
Il y a un monstre dans l'eau.
Jusqu'à 15h.
Prends ça dans les dents, sale bête.
La curiosité est un vilain défaut.
Le requin, il avale tout ce qu'il voit. Un coup de dent, et ça descend.
Au moins, c'est clair. Merci d'avoir choisi
pas les dents de la mer,
la première radio de France. On vient s'écouter un extrait des Dents de la mer. On est ensemble jusqu'à 15h sur RTL avec notre naturaliste préféré, Marc Giraud, pour chasser quelques idées reçues à propos des prédateurs. Et vous nous apprenez vraiment à vivre avec cette vie sauvage qu'on essaye, nous les humains, sans cesse, vous l'avez dit, vous avez dit ce mot, de stériliser, de faire disparaître. On a parlé de l'ours, vous nous avez rassuré. Maintenant, on va parler des serpents. On est nombreux à avoir peur, très peur des serpents. Est-ce qu'il y a beaucoup de morsures de ces là en France?
Il y en a, mais il n'y a même pas un mort par an. Donc là aussi, ne nous affolons pas et comparons avec le reste. Hein.
C'est quoi le serpent le plus dangereux? Celui qui mord l'humain et le fait disparaître?
Ce sont les vipères, évidemment, les couleuvres. Il y en a une qui mord, mais ça ne fait rien.
Elle mordille.
Et les serpents les plus courants sont les couleuvres à collier. Donc déjà, quand vous voyez un serpent, quelquefois même c'est un lézard, c'est un orvet sans, c'est un lézard sans pattes, l'orvet. Donc quand vous voyez un serpent, logiquement c'est pas une vipère. C'est devenu très rare.
Vous pouvez nous les décrire juste pour qu'on essaie de faire.
Alors pour les reconnaître du reste, elles ont un corps assez gros et la queue qui se termine très très brièvement.
Ça c'est quoi ça? Le serpent ou la...
La vipère.
La vipère.
Voilà, alors que la couleuvre est très longue. Mmh. D'ailleurs, si ça fait un mètre, c'est forcément une couleuvre. Les vipères, ça va jusqu'à 80 cm, 90 pour les plus grandes des plus grandes, et là aussi c'est rare. Elles sont petites, les vipères. L'histoire de la tête triangulaire, c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a une couleuvre qui imite la vipère, la couleuvre vipérine.
Personnalité. Ouais,
si la nature pouvait être simple. Hein.
Donc c'est plutôt la silhouette, d'accord. Et si vraiment vous voulez la regarder de près, c'est la pupille ronde pour la couleuvre, et la pupille verticale pour la vipère.
La vipère, comme c'est la plus dangereuse, c'est le serpent le plus dangereux, on a des chances de la rencontrer où en fait
ça c'est
dans
pareil,
pays.
C'est comme l'ours, moi je cours après pour en prendre en photo, on les voit pas tous les jours. Hein.
C'est à la campagne évidemment.
Oui, à la campagne, dans des endroits plutôt secs, l'été.
Dans des jardins non tondus.
Ça peut, évidemment, ça dépend des régions, c'est plutôt vers le sud. Y en a de moins en moins. C'est vrai. Hein.
Pourquoi ils disparaissent?
Comme tout. Tout disparaît puisqu'il y a l'urbanisation, il y a les pesticides, il y a tout ça. Leurs proies disparaissent, elles disparaissent aussi. Hein. Et puis surtout, dès que les gens voient quelque chose qui ressemble à un serpent, ils tuent. Mais vraiment, sur la route, souvent ils se chauffent sur le macadam. Mmh. Parce que ce sont des animaux à température variable. Donc souvent on voit les serpents sur la route qui se chauffent. Donc là, ils se font écraser. Les gens font exprès de les écraser. Donc il y en a de moins en moins. On les détruit beaucoup, beaucoup, par peur, par ignorance.
Une morsure de vipère, est-ce que c'est forcément dangereux? Est-ce qu'elle crache toujours son venin, la vipère?
Non. D'abord, elle économise son venin. C'est fait pour tuer ses proies et pour se défendre. Mais souvent... Elle mord à sec, on dit. C'est-à-dire qu'elle mord, mais il n'y a pas de venin. Et j'ai une amie que vous avez sûrement déjà reçue, Françoise Sercollet, qui est herpétologiste au muséum, qui a vu tous les reptiles de France, toutes les sous-espèces, tout ça, qui courent après, pareil. Elle a manié des vipères pendant des années. Et pour faire son livre, il lui manquait une photo de morsure. Et enfin... Elle s'est fait mordre par une vipère. Une fois, c'était à sec, elle était déçue.
C'est
une fois, elle était mordue avec du venin. Donc, elle était très contente.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc, elle a eu la photo de sa photo.
Avant de faire une photo, on fait quoi? C'est de se soigner.
On trouve un centre antipoison. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Voilà. En principe. Hein. Alors, pas de garrot, pas sucer la proie, pas chauffer.
On touche à rien, quoi.
On touche à rien et on ne s'affole pas. C'est ce qu'elle a fait. Elle est allée tranquillement à un hôpital. On a plus de 10 heures pour y arriver jusqu'à l'antivenin. Et elle a été à l'hôpital où on l'a reconnue d'ailleurs parce qu'elle a un rire très très caractéristique. Et elle a donné des leçons à l'aide d'infirmiers qui ne savaient pas la dose. Donc elle lui dit non, il faut une petite goutte de temps en temps. Voilà. Et elle ne s'est pas affolée. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, j'oserais dire. Alors évidemment, ça peut être dangereux quand il y a beaucoup de venin sur quelqu'un qui est tout petit, évidemment. Un enfant qui est malade, par exemple, avec une vipère qui mord très très sévèrement, là c'est...
Mais on a combien de temps? C'est-à-dire que le venin, il se...
dizaine d'heures pour trouver l'antidote. Et des fois, on n'en a pas besoin. C'est pas toujours mortel non plus.
Bon, évidemment, le mieux, Marc Giraud, c'est de ne pas se faire mordre par une vipère. Mmh. Quelles sont les précautions à prendre quand on se balade?
Alors, quand il y en a, déjà, il faut qu'il y en ait. On peut faire du bruit, même si c'est sourd, ça sent les vibrations. Donc, si vous marchez lourdement, si vous avez un bâton, ça les fait fuir parce qu'elles sentent très très bien les vibrations. Elles n'ont pas envie de la rencontre. Il ne faut pas les embêter quand vous les voyez. Et c'est à peu près tout. Alors, marcher sur une vipère par hasard, il faut quand même que la vipère soit bien endormie. Hein. Donc, c'est vraiment très rare. C'est plutôt des chats, des enfants qui jouent avec et qui ne savent pas. Mais les adultes, en principe, ils ne vont pas s'amuser à tripoter une vipère.
Bon, croiser un requin, c'est quand même beaucoup plus rare. Et pourtant, le cinéma continue d'en faire des personnages effrayants. Il faudrait plutôt peut-être les protéger. On vous explique pourquoi dans un instant dans La Curiosité.
Ce que vous avez découvert est plus énorme que tout ce qu'on aurait pu imaginer.
Et ce truc fait quelle taille?
C'est le plus grand requin qui ait jamais existé.
Sur RTL.
Cette créature est là quelque part. Il faut la trouver et la tuer.
En eau trouble, c'est un film de science-fiction qui est sorti il y a 2 semaines où on y retrouve un mégalodon, un requin préhistorique. Marc Giraud, avant de nous dire ce qu'est un mégalodon, il faut quand même faire la transition avec la vipère. Vous avez dit qu'elle avait, pendant la pub, qu'elle avait un point commun avec le requin.
Oui, c'est que les mâles ont 2 pénis. Aussi bien chez les serpents que chez les requins.
Mais les femelles n'ont pas de vagin.
Il fallait le dire à nos auditeurs.
Non, c'est pas comme les prises de courant. Il n'y a qu'un orifice.
À quoi ça sert de pénis?
comme ils ont pas de bras, non, comme ils ont du mal à trouver l'entrée parce qu'ils ont pas de bras, au moins ils ont une petite roue de secours. Voilà, il y en a qu'un qui sert.
La nature est bien faite. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez réécouter l'émission qu'on a consacrée à Darwin, que vous adorez, hein, c'est vraiment votre scientifique préféré et de loin, vous pouvez aller sur rtl.fr puisque c'était l'une de nos toutes premières émissions cette saison.
C'est quoi, Marc Giraud, alors ce mégalodon, ça ressemble à quoi ce requin préhistorique?
Alors ce film-là, vous avez décidé de m'agacer parce que c'est des trucs qui foutent les jetons à tout le monde.
On adore.
Déjà, les Dents de la Mer, l'auteur des Dents de la Mer a demandé pardon publiquement, il fait des conférences en public pour dire mais j'ai semé la terreur pour un animal qui est en voie de disparition, le grand requin blanc. On a quand même flingué 95%, hein. Il n'en reste plus que 5%. Et là maintenant on récidive avec un requin encore plus gros parce qu'il ne mangeait que des humains, maintenant il mange des bateaux, c'est encore plus drôle.
Ouais. Donc, mais comme il n'existe pas celui-là, ça va.
Mais en revanche, il a existé, c'est ça le mégalodon.
Il a existé et on peut présupposer supposer qu'il y en a encore quelques survivants, mais ça c'est plus du fantasme que de la réalité, parce qu'on en verrait les traces quand même.
C'est-à-dire qu'on a rien, il nous reste rien du mégalodon,
il y a pas des... Il nous reste des dents.
Des dents,
donc les dents quand même sont très très grandes, hein. Elles font 17 cm alors que celles du grand requin blanc font 6 cm. Donc par extrapolation, on imagine que ce requin faisait 15 mètres, peut-être 20 mètres, peut-être plus de 15 mètres. Évidemment, dans le film, ça fait largement plus de 15 mètres, de 20 mètres.
Hein. Mais vous dites on en verrait les traces si ça existait toujours, ça veut dire quoi?
Eh bien, quand un grand prédateur comme ça, qui n'était pas dans les abysses comme on le dit, mais qui était le long des côtes, on verrait comme les orques, les traces des dents sur les proies.
Oui, parce qu'il attaquerait des orques,
on le verrait,
des grands requins.
On le verrait, puis on a des images satellites, on a des radars, des sonars, enfin, on a ce qu'il faut pour repérer ce genre de choses.
Donc,
c'est grand comme un cachalot quand même.
Plus de mégalodons aujourd'hui, mais quel est le requin le plus grand aujourd'hui?
Alors le plus grand poisson du monde, c'est un requin, c'est le requin baleine, qui peut faire 15 mètres hein, quand même.
On l'appelle le requin pèlerin aussi, c'est le même.
Alors le requin pèlerin, c'est le deuxième plus grand du monde, qui fait 10-12 mètres, et qu'on a en Bretagne.
Oh,
je dis ça pour rassurer tout le monde. Ouais. Et ces deux grands poissons du monde, ce sont des aspirateurs à plancton. C'est-à-dire qu'ils ont des gueules énormes, un homme peut s'y loger. Ils sont absolument inoffensifs parce qu'ils ne filtrent que du plancton. Donc ne vous inquiétez pas. Et une petite astuce pour reconnaître un dauphin ou d'un requin. Le dauphin, il n'y a qu'un aileron, contrairement à ce qu'on voit dans les dessins animés. Et le requin, il y a deux ailerons. Il y a celui du dos et celui de la queue.
Alors, on est allé sur l'île de la Réunion la saison dernière avec Sidonie pour voir nos confrères d'RTL Réunion, qu'on salue d'ailleurs, on leur fait un coucou amical. La question des requins là-bas, elle est majeure.
Elle est agaçante aussi. Hein,
parce qu'il y a eu des attaques.
Oui. Alors, si vous dites attaque devant mon ami François Sarano, il va vous dire non, accident, pas attaque. Parce que le requin n'aime pas la chair humaine. Sinon, on ne mettrait pas un orteil dans l'eau.
Qu'est-ce qu'il croit voir alors quand il croque? On nous a montré un surfeur qui nous a montré la photo de sa planche qui avait été croquée par un requin.
Les requins sont plus malins que ça. Ils ont des sens électriques, sensoriels. Ils savent très bien que c'est un surfeur et pas une proie ou une otarie. C'est territorial, c'est une défense. Donc lui, il fait des parades pour dire attention, t'es chez moi, tu m'embêtes. Mais le surfeur, un plongeur le voit, il s'en va, un surfeur le voit pas forcément. Mais le vrai problème, c'est pas le requin, c'est les gens qui ne respectent pas les consignes de sécurité. Tous les accidents qu'il y a eu, c'était en eau trouble aux heures qu'il fallait pas, et on fait n'importe quoi là-bas. On vide les restes d'abattoirs dans l'eau. Vous imaginez bien qu'un requin, faire 200 km, c'est trois coups de nageoire, ils y sont. Donc on les attire.
Donc on leur offre un garde-manger, c'est ça?
Oui, et en plus, il y a un programme qui s'appelle Cap Requin là-bas, qui vaut des millions d'argent public, qui, soi-disant, pour attraper les requins, c'est-à-dire qu'ils mettent des appâts à requins le long des plages. Donc on fait n'importe quoi.
Mais comment vivre avec les requins alors? Comment partager les eaux entre humains et requins?
Juste les connaître un peu mieux. En Polynésie, il y a des peuples où, par exemple, les enfants jouent avec les requins parce qu'ils savent très bien les heures où on peut, les espèces qu'on peut côtoyer, etc. Il faut juste connaître un peu la nature. Mais aujourd'hui, on est débranché, on voudrait faire de l'océan une espèce de piscine stérilisée aussi, aseptisés. Et ils sont chez eux, les requins.
Finalement, Marc Giraud, à part l'homme, quel est l'animal qui est le pire prédateur?
Alors c'est vrai que l'homme, si du point de vue scientifique, on pourrait le classer dans les nuisibles, parce que qu'est-ce qu'il fait comme dégâts? Et même à lui-même.
On est d'accord, mais sinon?
Eh bien, pour moi, c'est plutôt les toutes petites bêtes. Peut-être les virus. Si l'humanité avait à craindre quelque chose, ça serait des choses microscopiques.
Les moustiques?
Les moustiques, alors ça, les animaux les plus dangereux du monde, c'est les mouches et les moustiques qui transmettent tellement de maladies microscopiques que là, il y a des milliers et des millions de morts tous les ans.
Hein. Le paludisme, je crois que c'est 1 200 000 morts.
Ouais, voilà. Alors,
en France, on ne meurt pas d'une mouche ou d'un moustique?
Alors non, pas encore, mais grâce à nos pollutions et au réchauffement climatique, qu'on commence à bien sentir l'été, n'est-ce pas, les fièvres tropicales pourraient monter et on pourrait avoir des cas de chikungunya ou autre chez nous. Là, je ne veux pas foutre les jetons, mais ça c'est nous, hein. Ça c'est nous.
C'est le titre de votre nouveau film, Marc Giraud.
Merci beaucoup, Marc. En tout cas, vous publiez dans quelques semaines Des kangourous dans mon jardin avec Georges Fetterman aux éditions Dunod. Et ça.
Eh ben, vous n'êtes pas débarrassé. Je reviens.
Voilà, ça évoque cette question du réchauffement climatique et des conséquences, notamment sur la nature, faune et flore. À très vite, donc, Marc. Merci.
Et avec plaisir.
Au revoir, Marc. Au revoir. C'est la fin de votre curiosité. Si vous avez envie de nous faire découvrir à vos amis ou vos ennemis, n'hésitez pas.
RTL. De 14h à 15h. La curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.